Vous écoutez
RMC.
Lundi 18 mai,
l'info sur RMC.
Il est 7h juste, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. De nouveaux foyers de contamination dans les abattoirs, une centaine de cas dans les Côtes d'Armor et dans le Loiret. Les conditions de travail sont pointées du doigt. 150 000 élèves de 6e et 5e ont mis un réveil ce matin, retour au collège. Dans les zones vertes où le virus circule peu, reprise progressive sur la base du volontariat avec masque obligatoire. Et puis en Italie, phase 2 du déconfinement activé, réouverture des commerces aujourd'hui, mais aussi des cafés et restaurants. Il est 7h sur RMC, bienvenue à tous. Une semaine après le déconfinement en France, de nouveaux foyers de contamination ont donc été détectés un peu partout sur le territoire, au moins 25 selon le ministre de la Santé Olivier Véran, dont 2 dans des abattoirs, l'Institut dans les Côtes d'Armor. 6 cas avaient été signalés vendredi dernier. Les tests ont fait apparaître 63 nouveaux cas. Dans le Loiret, ce sont 34 personnes qui ont contracté le virus, l'abattoir Tradival, où les tests vont se poursuivre aujourd'hui. Reportage de Camille Schmitt à Fleury-les-Aubrais.
Devant l'abattoir, Aminata est nerveuse. Elle attend son tour pour se faire dépister du coronavirus. Cette salariée craint d'être contaminée.
On a le gel hydroalcoolique, on a les masques, et puis voilà. Mais c'est impossible de respecter la 1 mètre de distance parce que vu comment on travaille.
34 cas ont été confirmés dans cet établissement. Plus de 360 salariés doivent encore être dépistés d'ici demain. Pour Laurent Habert, directeur général de l'Agence régionale de santé du Centre Val-de-Loire, le but est de casser la chaîne de transmission du virus.
À chaque fois qu'il y a un cas confirmé, il y a également une recherche de cas contact qui se fait dans la sphère amicale, familiale, de façon à chercher les ramifications à partir de ce noyau initial professionnel.
À 400 km de là, dans l'abattoir de Kermenet, en Bretagne, ce sont désormais 69 salariés qui sont contaminés. Un chiffre qui inquiète Alain Cadet, président du conseil départemental des Côtes d'Armor.
Les salariés habitent 20 ou 25 communes autour et peuvent évidemment disséminer en quelque sorte le virus, ça va tellement vite.
Il craint que son département ne passe en rouge alors que les Côtes d'Armor ont jusqu'ici été très peu touchés par l'épidémie.
Et à Fleury-les-Aubrais, la maire de la ville a décidé de refermer toutes les écoles par précaution et de ne pas rouvrir les collèges. Car oui, c'est la rentrée aujourd'hui pour 150 000 élèves de 6e et 5e sur la base du volontariat et dans les zones où le Covid-19 circule peu, c'est-à-dire dans les zones vertes. Éric Villard est enseignant dans un collège niçois. Il est très heureux de revoir ses élèves en chair et en os.
J'ai hâte de retrouver mes élèves. Le contact aux élèves en direct, c'est un manque, ça, c'est indéniable. Les premiers cours qui vont avoir lieu avec les élèves, ça va vraiment être de les rassurer, de reprendre le rythme. On n'est plus à la maison sur son lit, on est en classe. Ça paraît bête, mais c'est important. Faire peut-être un bilan sur ce qui a été vu, et puis appuyer, revenir sur les notions qui sont peu comprises ou mal comprises. Et puis si tout va bien, ma foi... avancer et puis essayer de terminer ce fameux programme pour préparer au mieux les classes supérieures.
Et les 150 000 élèves qui vont reprendre le chemin de l'école devront porter un masque et respecter les mesures sanitaires mises en place. Un retour timide et progressif, Nicolas Trénaud.
Des collèges seront quasiment vides ce matin et d'autres moins. Par exemple, seulement 30% des élèves de 6e, 5e vont retrouver leur classe dans certains collèges en difficulté de REP+, d'après un syndicat enseignant, contre 80% dans d'autres établissements situés plutôt à la campagne. Ensuite, si les mesures sanitaires strictes sont bien respectées dans ces collèges de zone verte, les élèves de 4e et de 3e pourront revenir à leur tour, car à ce jour, personne ne sait quand ils reprendront l'école. Le ministère de l'Éducation nationale décidera à la fin du mois, mais des élus aimeraient être fixés plus rapidement. À Lyon, la rentrée des plus grands sera difficile avant le 2 ou le 9 juin, prévient d'ores et déjà le président de la métropole, David Kimmelfeld. La réouverture des collèges dans les zones rouges doit aussi être étudiée fin mai. 3200 collèges pour le moment restent fermés.
Fermé également des écoles des communes de Soyaux et La Couronne, c'est dans la banlieue d'Angoulême. 2 membres du personnel enseignant ou encadrant ont été testés positifs au Covid-19. Réouverture aujourd'hui des agences Pôle emploi après plus de 2 mois de fermeture. On y reviendra dans le journal de 7h30 sur RMC. RMC 7h04, plus de 19 000 personnes restent hospitalisées malades du Covid-19 en France. Environ 2 000 patients sont en réanimation. Les personnels soignants restent évidemment fortement mobilisés. Ils vont scruter les annonces d'ici l'été du gouvernement. Un plan santé est en préparation, à la clé des augmentations de salaire. Pour cela, le ministre de la Santé envisage notamment de déplafonner les heures supplémentaires, aujourd'hui limitées à 15 heures par mois. Une piste accueillie plutôt froidement par les intéressés. Reportage à Marseille de Lionel Dian.
Aujourd'hui, les infirmières ne peuvent pas faire plus de 15 heures supplémentaires par mois et surtout ces heures sont rarement payées, déplore Pascal Jourdan, infirmière déléguée CGT à Marseille.
Les heures supplémentaires, on ne peut pas les récupérer parce qu'on n'est pas assez nombreuses et on ne peut pas nous les payer parce que le budget de l'hôpital ne le permet pas. Alors certaines trouvent la possibilité d'aller travailler dans le privé en plus que leur poste à l'hôpital. Malheureusement, c'est pas permis, c'est illégal. Tout le monde le sait, mais c'est une pratique très courante.
L'idée du gouvernement de déplafonner les heures supplémentaires à l'hôpital pour augmenter les rémunérations, ça ne séduit pas Mireille Stivala de la Fédération CGT Santé.
Nous sommes très dubitatifs sur le contenu. Il est hors de question pour ces salariés de travailler plus dans les conditions actuelles. Ce que demande la CGT, c'est des négociations sur la question salariale, mais aussi un plan d'urgence justement de création de postes qui permettrait d'améliorer les conditions de travail des salariés, mais aussi la prise en charge des patients.
Des syndicats hospitaliers qui prévoient désormais de se remobiliser chaque semaine pour peser sur le gouvernement.
Et c'est l'une des conséquences de la pandémie. De nombreux patients atteints de cancer ont repoussé leur rendez-vous à l'hôpital. Les médecins alertent sur le risque gravissime de repousser son traitement. Reportage dans le service d'oncologie de l'hôpital privé de Seine-Saint-Denis au Blanc-Ménil. Marie Monnier, Benoît Ballet.
Assise sur une chaise inclinée dans une blouse colorée qui laisse dépasser son bras gauche perfusé, Katia, 49 ans, entame une séance de chimiothérapie qui va durer 3 heures. Pour se rendre à l'hôpital, elle a dû combattre sa peur du virus.
J'avais peur, mais je me suis dit, allez, on y va et on verra. Faut que je guérisse et tout, je ne veux pas rester comme ça. Mais bon, ça a été jusqu'à maintenant.
Pour certains, en revanche, l'appréhension est encore trop forte. Gaëlle Seknazi est la directrice des soins infirmiers.
On a eu d'autres patients sur des cancers de la vessie qu'on a essayé de relancer plusieurs fois et qui, effectivement, ne veulent pas venir de peur d'attraper le Covid.
Le docteur Valentine Sultan, oncologue médical, assure que les précautions sont prises pour réduire le risque de contamination à l'hôpital. Elle insiste surtout sur la nécessité d'écouter son médecin.
Le cancer n'attend pas. Le cancer n'attend pas le coronavirus. Il y a certaines maladies cancéreuses très agressives où on ne peut pas se permettre d'attendre.
Dans certains cas, la chimiothérapie peut même être réalisée par traitement médicamenteux, permettant au patient de rester chez lui et de réduire les interactions sociales.
La vie des Italiens au ralenti depuis plusieurs semaines va reprendre aujourd'hui, réouverture des commerces, mais aussi des bars et des restaurants. Nous prenons un risque, a dit le Premier ministre italien Giuseppe Conte, un risque calculé, mais certains Italiens estiment que ça va trop vite, comme cette Milanaise.
Moi, je ne suis pas encore assez rassurée pour aller au restaurant. Et puis, ça ne me plaît pas. Je ne vois pas l'intérêt d'y aller si c'est pour être aussi éloignés les uns des autres. C'est triste. J'y retournerai quand ce sera plus normal. De toute façon, beaucoup de professionnels ne sont pas prêts pour ouvrir pour des raisons de sécurité sanitaire.
Et la basilique Saint-Pierre de Rome rouvre aussi ses portes aujourd'hui, tout comme la place Saint-Pierre qui donne accès à ce lieu culte. Dans une semaine, ce sont les cinémas, théâtres et piscines qui devraient rouvrir dans le pays. En parlant de théâtre, la Nuit des Molières, qui décerne les prix les plus prestigieux du théâtre français, aura bien lieu. Ce sera le 23 juin prochain et ce sera sans public au Théâtre du Châtelet, diffusé à la télévision. Premier week-end déconfiné pour les Français. Certains chanceux ont pu mettre les pieds dans l'eau après la réouverture des plages par endroits. D'autres se sont baladés en forêt à Fontainebleau, par exemple, à moins de 100 km de Paris. Romain Poiseau.
Le chant des oiseaux est presque masqué par le bruit des voitures qui prennent d'assaut les parkings. Et quand on s'enfonce dans la forêt, derrière chaque arbre, chaque rocher, un pique-niqueur, un grimpeur qui profite du grand air.
Oui, il y a du monde, mais par rapport à l'environnement qu'on avait dans Paris, où on est les uns sur les autres dans la rue, il faut le dire, on peut même pas marcher sur les trottoirs, là, ça va quoi.
Mathieu est venu avec 9 amis pour la journée.
Je jouis de la liberté. Ça fait un côté comme ça, départ en vacances.
Vacances, oui, mais sous surveillance des gardes forestiers.
Bonjour. Il y a un masque qui traîne par terre.
Oui, c'est le mien.
Vous le reprenez. Hein, oui, mais vous le prenez et surtout vous le ramassez. C'est pas un camping.
Avec cette liberté retrouvée, les incivilités en forêt se multiplient. Tanguy Niveau est technicien de l'ONF.
On a pu le voir tout à l'heure, des masques qui traînent par terre aux entrées de parking, etc. Donc il faut respecter la nature, il ne faut pas faire n'importe quoi, pas arracher les plantes, rester dans les chemins. Hier, ouais, on serait cru sur une plage dans le sud, quasiment les serviettes, limite les maillots de bain, il manquait plus que la mer.
La Côte d'Azur, en forêt de Fontainebleau, mais comme le rappelle Michael, un grimpeur.
Le vent qui passe dans les arbres, la sensation d'être connecté avec les éléments, tout simplement, en fait.
Rien ne vaut le contact avec la nature après 2 mois de confinement.
Dans l'actualité également, à Besançon, un adolescent de 17 ans tué par balle hier soir, alors qu'il se trouvait devant l'entrée d'un immeuble situé à Planoise, quartier sensible de la ville. Le tireur a pris la fuite. L'homme qui était dans la voiture avec lui a été interpellé.
Il est 7h10. Merci beaucoup, Céline. On vous retrouve tout à l'heure à 8h. Je vais prendre Fatima. Fatima qui est dans le Lot-et-Garonne. Bonjour, Fatima.
Bonjour, Jean-Jacques. Je suis vraiment enchantée de vous avoir, vous et votre équipe.
Ben, moi aussi. Moi aussi, c'est Fatima. Ça. Alors, le déconfinement. D'abord, un mot. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que c'est au bon rythme? Comment le vivez-vous?
Mais écoutez, moi, ça va parce que j'habite la campagne. Donc, oui. Je peux m'extérioriser comme je veux. J'ai un grand jardin. Mais je trouve que ça va beaucoup trop vite.
Vous trouvez que ça va trop vite? Il y a beaucoup d'auditeurs. C'est marrant. Alors, c'est très partagé. Certains disent, mais attendez, maintenant, il faut nous libérer, il faut accélérer le déconfinement. Et d'autres qui disent, non, ça va beaucoup trop vite.
Après, ce qui me fait peur, c'est les frontières qu'on ouvre avec l'Italie.
Oui, le 3 juin.
Oui, mais vous savez, il sera vite là, c'est dans 15 jours.
C'est l'Italie qui a décidé d'ouvrir ses frontières le 3 juin. À tous les Européens de l'espace Schengen.
C'est ça. Donc, on va avoir un mélange et on aura encore...
Ça vous fait peur, ça?
Ah oui, moi, ça me fait peur. Écoutez, moi, Jean-Jacques, j'ai 60 ans.
Oui.
J'ai fait très attention. Quand j'entends des jeunes qui me disent qu'ils ne veulent pas aller travailler parce qu'ils ont peur, moi, je suis obligée d'aller travailler. Oui. Je pense que je suis plus une population qui craint que certains jeunes. Oui. Je suis donc responsable d'une cantine. Je travaille
dans un collège.
Oui, tout à fait, où on a dans un milieu rural. Donc, beaucoup de parents n'ont pas voulu remettre leurs enfants.
Oui.
Mais on a quand même des primaires maternelles. Donc, les primaires vont arriver sans les masques. Les collégiens ont les masques.
Oui.
Nous, on a des conditions draconiennes pour faire à manger. C'est de la folie. On doit pulvériser sur les cartons que l'on reçoit des produits. Oui, tout à fait. Mais alors, moi, je vous dis franchement...
Mais les conditions, vous disiez pulvériser sur les cartons.
Oui, on reçoit par exemple des cartons, vous savez, par exemple des cartons de nourriture. Par exemple, on va recevoir du thon. Il faut pulvériser les cartons avant de les ouvrir.
Oui.
Une seule personne doit donc s'occuper de cela. Après, vous défaites toutes les boîtes, vous devez toutes les nettoyer avec des lingettes. C'est incroyable le nombre de nettoyages.
Ça doit vous rassurer quand même ces précautions, non, Fatima?
Ben, c'est-à-dire que moi, ça me rassure pour les enfants, mais pas pour nous, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu sur les cartons, où ça a transité, et tout ça, quoi.
Oui,
même,
bien sûr.
Même pour le pain,
vous savez, des gants, vous aurez des masques.
On a tout ce qu'il faut, c'est vrai.
Vous avez tout ce qu'il faut, oui, mais je sais. D'ailleurs, il y a une compétition, puisque je rappelle quand même que les écoles dépendent des mairies et les collèges des départements. Il y a une compétition entre collectivités locales. Bon, Fatima, bonne rentrée, vous savez ce qu'on va faire. On va vous rappeler, d'accord?
Oui, voilà, je vous remercie. Et merci pour vos émissions, c'est génial.
Ben, merci Fatima, merci, c'est un plaisir. Le déconfinement, la vitesse du déconfinement, Quentin.
Et puis, certains font moins attention maintenant.
Oui.
Depuis le début, par rapport au tout début du confinement, on s'aperçoit qu'on se lave moins souvent les mains, qu'on oublie de tousser dans son coude, qu'on ne fait pas vraiment attention à la distance d'un mètre entre chaque personne. Presque tous les indicateurs de vigilance sont en baisse chez Santé publique France. Seulement 4 personnes sur 10 respectent scrupuleusement les 4 grandes consignes. Les mains, le coude, la distance, la bise. La seule mesure qui perdure d'ailleurs, c'est la bise ou la poignée de main. 9 Français sur 10 ont arrêté d'embrasser un proche ou un inconnu d'ailleurs.
Honneur au personnel soignant. Thierry Amouroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Vous êtes vous-même infirmier à la PHP à Paris, hôpital Saint-Louis. Et Thierry Amouroux, vous entendez tout à l'heure Michael qui nous disait, moi je ne peux pas sortir de chez moi, les effets psychologiques du confinement. Vous connaissez ça aussi, les effets psychologiques de la crise chez le personnel soignant. Ça existe, hein, Thierry Amouroux.
Oui, parce que nous, la difficulté qu'on a eue, c'est pas simplement gérer une pénurie, ça a été gérer le manque de masques, le manque de surblouses, le manque de tests, le manque de lits.
Oui.
On a été amené à faire des choses qu'on n'avait jamais fait avant, quoi.
Bon, aujourd'hui ça fonctionne. Aujourd'hui ça fonctionne. D'abord il y a moins de malades, hein.
Oui.
Donc évidemment ça fonctionne bien. Ben c'est le moment maintenant de demander des efforts au gouvernement, à l'État. Et le premier effort, c'est d'augmenter les salaires. Là, vous êtes... on va voir, hein. Olivier Véran promet des augmentations de salaire. Combien demandez-vous ?
Alors nous, ce que l'on attend, c'est le différentiel de salaire entre une infirmière française et le salaire moyen infirmier européen, c'est-à-dire 300 euros par mois.
Il y a une différence de 300 euros. La moyenne européenne est à 300 euros plus élevée que la moyenne française.
Oui, on est sous-payé en France. D'ailleurs, vous voyez, on est toujours un peu dans la logique de bénévolat ou de charité. Ces derniers temps, il y a eu ces parlementaires qui ont lancé un appel aux dons de RTT qui seraient transformés en chèque cadeau via une usine à gaz. Non, pas du tout. Nous, on est pour la reconnaissance de nos compétences, de nos responsabilités, de notre engagement au quotidien. Et donc, on veut être payé correctement par l'État employeur. On veut pas vivre de la charité parce que, vous savez, le propriétaire de notre logement ou au supermarché, on peut pas payer en médaille, on peut pas payer en défilé du 14 juillet.
Oui, donc tout ça, c'est bien, mais ce que vous comptez faire, ce que vous voulez, ce sont des augmentations de salaire. Ça, c'est la première demande du personnel infirmier. Alors, nous allons voir, puisqu'il va y avoir de grandes réunions qui vont commencer, de grandes concertations. Est-ce que ça a commencé déjà ?
Alors non, il faut comprendre que toutes les organisations syndicales ont appris à la fois le plan et la date du 25 à la lecture du journal hier. Ouais.
On ne connaît pas le plan encore.
Oui. Et donc on a peur que ce soit une grande messe. Type grand débat, voilà, je vous ai réunis, et puis maintenant, je vous dis ce que j'ai déjà décidé. Donc, on n'est pas vraiment dans une optique de négociation.
Si on vous dit, c'est 300 euros d'augmentation, vous dites, tant mieux.
Voilà, c'est une des trois revendications que l'on a, et c'est bien.
Autre revendication, les 35 heures. Alors, briser un peu le carcan des 35 heures à l'hôpital pour organiser différemment le temps de travail des personnels. Il faut ou pas ?
Alors, il faut savoir qu'à l'hôpital, est en 38 heures ou 37 heures, mais il n'y a pas d'hôpitaux en 35 heures. Ce que l'on a, c'est des RTT, des jours de RTT, que l'on ne peut pas prendre faute de personnel. Et donc, on revient sur les repos, etc. Par exemple, à la PHP, vous avez 1 million de jours qui sont accumulés sur les compteurs et que les gens ne peuvent pas prendre. Donc, il faut embaucher. Alors qu'on fait l'inverse, parce que depuis 10 ans, on ferme des lits, on supprime des postes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des plans d'économie sans cesse. On a retiré au budget de l'hôpital plus de 10% de son budget. 11,3 milliards en 10 ans, alors que le budget est de 84 milliards. Donc on n'en peut plus.
Mais comment fait, par exemple, un pays comme l'Allemagne, que vous citez en exemple souvent, puisqu'à juste raison, vous dites, regardez, en Allemagne, les infirmiers ou infirmières sont payés 300 euros de plus, peut-être plus même en Allemagne. Je parle de la moyenne. Bon, la moyenne européenne, c'est 300 euros de plus. Mais est-ce qu'on travaille plus ou pas en Allemagne ? Est-ce qu'un infirmier ou une infirmière allemande travaille plus ou pas qu'en France ?
Non.
Travaille pas plus.
Non, parce que encore une fois.
Alors l'organisation est différente.
Oui. Non, le souci que l'on a en France, c'est toutes ces technostructures, les agences régionales de santé qui ont été créées il y a 10 ans. Elles ont été créées pour mutualiser, c'est-à-dire fermer des lits, des services, des hôpitaux un peu partout. On a fermé 100 000 lits en France, 20% des capacités. On est passé d'un peu plus de 500 000 à un peu moins de 400 000. Et on a vu, là, avec cette crise, que lorsque la France a 5 000 lits de réanimation et l'Allemagne 25 000, il y a un problème, parce que l'Allemagne, il jette pas l'argent par les fenêtres, quoi.
Oui, mais est-ce que, par rapport au nombre de lits, il y a plus de personnel en Allemagne qu'en France ? Parce que l'Allemagne ne dépense pas plus pour son hôpital qu'en France.
Oui, mais ils ont peut-être moins de technostructures, comme régionalisé. Oui. Le ministère de la Santé, c'est 11 000 fonctionnaires. Après, l'ARS Île-de-France, c'est 1200 fonctionnaires. Quand je dis fonctionnaire, c'est souvent des chargés de mission contractuels, donc payés deux fois plus qu'un fonctionnaire normal. Si on supprimait tous ces gens-là, pour chaque poste supprimé, on pourrait créer 2 à 3 postes d'infirmières ou d'aides-soignants dans les hôpitaux.
Qu'est-ce que vous demandez encore ?
Alors, rouvrir des lits et créer des postes, parce que c'est vraiment là le souci. On voit bien, vous me posiez la question sur le nombre d'infirmières pour par habitant. En France, on est à 10, en Allemagne, 13 pour...
Pour... En fait, il ne s'agit pas de dépenser peut-être plus, mais de dépenser mieux.
Tout à fait. Tout à fait.
Dépenser autrement.
Oui. Et si on pouvait se débarrasser de ces lourdeurs administratives, nous, on est confrontés à des directions qui gèrent des tableaux de bord, des ARS, qui sont dans une logique de traçabilité, non pas de qualité. Donc voilà tout ce qu'il faut changer. Nous, à l'hôpital, on a su faire face pendant l'épisode Covid. Vous avez vu, tout le monde s'est organisé. Et puis les administratifs sont passés au second plan. Oui. Ils nous ont laissé faire parce qu'ils
étaient débordés. Donc restons comme ça. Mettons la santé en premier plan et l'administration derrière.
Tout à fait.
Bien, merci beaucoup Thierry Amourou. Merci d'être venu nous voir. Il est 7h20. Mathieu.
Depuis qu'on sait qu'on peut partir en vacances en France cet été, on s'est rué sur les sites de réservation sur Internet. Victor Johannin va tout nous dire du pain quotidien dans une minute sur RMC.
RMC. RMC.
Du pain quotidien.
Se repose. C'est Victor Johannin qui est avec nous. Bonjour Victor.
Bonjour.
Victor, les Français vont donc pouvoir partir en vacances cet été en France, mais pas qu'en France, en Italie aussi déjà. Les sites de réservation des gîtes et des campings ont été très visités durant tout le week-end. C'est peut-être votre cas, appelez-nous 3216. Vous êtes allé sur Internet, vous êtes allé voir, vous alliez passer vos vacances peut-être, Victor.
Oui, effectivement, les professionnels ont senti un frémissement après le discours du Premier ministre jeudi. Les téléphones des gérants de camping se sont remis à sonner. Les réservations chez VVS Vacances ont été multipliées par 10, même si on est encore loin des niveaux habituels, puisqu'on est à 50% de l'activité par rapport à un mois de mai classique pour Gîtes de France.
Alors, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les activités qui seront autorisées ou pas autorisées. Les professionnels s'impatientent.
La réouverture n'est pas encore actée pour les boîtes de nuit, les piscines très apprécié par les Français qui restent chez eux pour les vacances, mais aussi les parcs à terme. La direction du Puy du Fou a même lancé une pétition. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas rouvrir alors que les zoos et les châteaux le peuvent. Le parc vendéen perd 1 million d'euros de chiffre d'affaires par jour et attend de pied ferme les annonces du gouvernement qui détaillera un calendrier de réouverture des sites touristiques la semaine prochaine.
Alors pour voyager à l'étranger, c'est clair, hors Europe, c'est oublié.
Oublié
pendant encore plusieurs mois, mais en Europe.
Alors, c'est possible. La Commission européenne a proposé de permettre les déplacements entre les pays où la situation sanitaire est maîtrisée. Mais pour le moment, les États avancent en ordre dispersé. L'Italie compte rouvrir ses frontières dès le 3 juin, alors qu'à l'inverse, l'Espagne restera fermée aux touristes jusqu'en juillet. En attendant que ça se décante, le gouvernement français conseille pour l'instant de patienter avant de réserver ses vacances dans un État européen.
Et notamment en Italie. Et concernant, l'Italie, c'est déjà possible. C'est possible à partir du 3 juin.
Voilà.
Et concernant les transports, y aura-t-il des trains en quantité suffisante?
Alors, la réservation des billets estivaux est ouverte depuis vendredi. Et le patron de la SNCF l'a promis. Le trafic sera rétabli à 100% d'ici l'été. Mais en fait, cet engagement cache le fait que seul un siège sur deux est proposé à la vente à cause de la distanciation physique. La compagnie ferroviaire se prépare au grand week-end de départ. Vous savez, avec les gares bondées pour éviter les regroupements devant les trains. Le quai sera annoncé 40 minutes à l'avance, alors que c'est 20 minutes maximum aujourd'hui.
Pas 20 minutes, parfois 10.
Oui, maximum.
Et les avions,
Les vols domestiques pourraient reprendre le mois prochain en France. L'Association internationale du transport aérien l'a affirmé ce week-end. Puis l'objectif est de rouvrir les vols européens en juillet et enfin les vols intercontinentaux à l'automne.
Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport, sera mon invité demain matin parce que là, j'ai plein de questions et vous écouterez bien. Nous aurons, je l'espère, des réponses sur nos voyages, nos déplacements. Merci Victor. Il est quelle heure? Il est 7h27. Je me tourne vers Charles Magnin, l'actu des réseaux sociaux.
RMC. Hashtag Magnin.
Bon, quand on ne porte pas de masque et qu'on est ministre, ça suscite l'indignation des internautes.
C'est un peu la nouvelle mode sur les réseaux sociaux. Scruter, dénoncer le non-respect des gestes barrières. Exemple samedi, Christophe Castaner est en déplacement au bord de la mer en Seine-Maritime. Le ministre de l'Intérieur ne porte pas de masque, mais il pose pour des photos avec les habitants, notamment des enfants, sans respecter la fameuse distance d'un mètre. Et bien évidemment, l'image tourne en boucle sur les réseaux sociaux, accompagnée de commentaires qui accusent Christophe Castaner de bafouer les gestes barrières. Cette question du port du masque a d'ailleurs pris un tour très politique hier. Emmanuel Macron était dans l'Aisne, à Montcornet, pour célébrer les faits d'armes du général de Gaulle en juin 40. Et sur place, le chef de l'État ne portait pas de masque, contrairement à Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Sur les images de la cérémonie, Xavier Bertrand est l'un des seuls à porter le masque. Il affirme à nos confrères de Oisebdo que ce serait l'Élysée qui aurait demandé aux élus de ne pas porter de masque. Xavier Bertrand dit qu'il a refusé, estimant que les distances entre les personnes présentes n'étaient pas suffisantes. Et il n'en fallait pas plus, là encore, pour déclencher une nouvelle salve de commentaires sur les réseaux, avec beaucoup d'arrière-pensées politiques.
Bien, autre image qui a suscité beaucoup de réactions, les masques par terre, jetés
oui, image,
dans les rues, dans les fossés, dans la campagne.
Image tweetée par les éboueurs, oui, à Paris, à Lyon, mais aussi, oui, par des internautes un peu partout en France. À chaque fois le même constat, des masques, des gants jetés sur les trottoirs, dans les caniveaux, des déchets qui représentent un désastre environnemental, mais aussi un danger pour les éboueurs chargés de les ramasser et qui indignent évidemment les internautes. L'un d'entre eux raconte: « Je suis allé marcher dans la campagne aujourd'hui, j'ai vu des masques jetés au sol, au cœur de la nature. Ceux qui font ça sont plus dangereux avec des masques que sans. » Les masques sont devenus les nouveaux mégots, ajoute une internaute. Et toujours sur Twitter, le ministère de l'écologie rappelle encore une fois les consignes. On jette son masque dans un sac dédié qu'on jette ensuite dans le bac à ordures ménagères.
Et le masque qui fait toujours sourire les internautes, hein,
oui,
Charles.
Oui, aussi, par exemple, cet internaute qui témoigne: j'ai craqué, je viens de commander un masque à l'effigie de Gaston Defer. Je vais pouvoir être l'homme au masque de fer.
Oh.
On a aussi cette jeune femme qui lance un appel. Messieurs, soyez intelligents et évitez de nous draguer quand on porte un masque, on va vite comprendre que ce n'est pas notre visage qui vous intéresse. Je vous passe toutes les comparaisons entre le port du masque et celui du préservatif. En revanche, il y a cet internaute qui se perd un peu dans les consignes et qui écrit: si j'ai bien compris, après chaque utilisation, il faut laver son masque 30 minutes en machine à 60 degrés, puis désinfecter la machine à la Javel, puis la démonter pièce par pièce, puis rincer la salle de bain au Karcher, puis aller vivre quelques jours à l'hôtel le temps que ça sèche. Voilà pour les consignes les plus strictes imaginées par un internaute.
Merci Charles. Allez, Nicolas Poincaré, bonjour Nicolas.
Bonjour Jean-Jacques.
Si nous parlions de l'Italie, l'Italie qui a précipité son déconfinement, qui va ouvrir ses frontières le 3 juin, alors je pose la question ici en France, est-ce qu'on déconfine trop vite, pas assez vite? Vous nous dites, vous continuez à débattre, et je vois qu'au Standard ça débat beaucoup. Alors en Italie, vous allez tout nous expliquer.
Eh bien ils ont décidé soudainement d'accélérer, la décision a été prise ce week-end de façon inattendue, tout rouvre aujourd'hui, presque tous les commerces, absolument tous les commerces, les églises, les musées, et surtout les bars et les restaurants. Ça va être, oui, un des rares pays d'Europe où tout sera ouvert comme ça. Et puis dans 15 jours, vous l'avez dit, ce sera l'ouverture des frontières, la liberté de circuler totale pour les Italiens à l'intérieur du pays et la liberté pour nous d'aller
en Italie, évidemment. Il est 7h30. À tout à l'heure, Nicolas, 8h10.
À suivre, oui, dans le monde indirect. Les dons ne baissent pas,
oui,
ils s'effondrent. Le cri d'alarme du président de la Ligue contre le cancer, qui appelle aussi les patients à continuer de consulter malgré le coronavirus. Axel Kahn, avec nous juste après le journal de 7h30 sur RMC.
Il est 7h31, c'est Anne-Sophie Balbir qui est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Quand je suis arrivée, mon fils commençait à suffoquer. Témoignage ce matin sur RMC et BFM TV, celui d'un père qui a perdu son enfant de 9 ans, mort d'une forme proche de la maladie de Kawasaki à Marseille. 25 foyers de contamination identifiés en France en une semaine. Plus de 100 personnes testées positives dans deux abattoirs près d'Orléans, près de Saint-Brieuc. Les précisions de Jean-Baptiste Bourgeon dans un instant. Et puis, nouvelle étape du déconfinement, réouverture des collèges dans les zones vertes. 150 000 jeunes de 6e et 5e sont concernés. RMC, 7h31. Il a décidé de prendre la parole sur BFM TV pour alerter les autorités, les parents. Le papa de ce petit garçon de 9 ans, victime d'une forme proche de la maladie de Kawasaki, décrite chez de jeunes patients ayant été en contact avec le Covid. L'enfant est décédé à Marseille le 8 mai dernier. Jusqu'ici, 144 cas ont été répertoriés selon la Direction Générale de la Santé. Benjamin Pelsi.
Après 3 jours de fièvre, ce père amène son fils aux urgences. Sa température est de 38,5. Des plaques rouges sont apparues sur l'ensemble du corps du garçon.
Une interne est arrivée, elle a commencé à l'examiner. Elle a déshabillé, elle a regardé toutes ces plaques rouges, ces boutons rouges. Elle n'était pas très rassurée.
Les médecins laissent repartir le père et l'enfant avec une ordonnance d'antibiotiques. Quelques heures après, il fait une attaque cardiaque, hospitalisé en réanimation. Le garçon de 9 ans sera déclaré en mort cérébrale 5 jours plus tard.
J'ai demandé, est-ce que vous avez trouvé à quoi ça a été dû. Le médecin m'a dit qu'il s'avérerait que les symptômes ressemble aux symptômes du Kawasaki.
Pendant ces 5 jours, le garçon est testé au coronavirus. Il a bien été exposé au Covid-19, mais sans développer de symptômes.
Ce contexte sanitaire, je pensais qu'on allait jouer la carte de la précaution. Mon fils n'avait pas d'antécédent médical, il est en parfaite santé. Je souhaite que ce soit le premier et le dernier en France. Je souhaite à aucun parent de vivre une tragédie pareille.
La famille envisage de porter plainte pour faire toute la lumière sur la mort de l'enfant.
Le coronavirus qui continue de circuler, dernier bilan le plus important depuis fin avril, 483 morts supplémentaires en 24 heures, 25 foyers épidémiques qui ont par ailleurs été identifiés en une semaine en France. Annonce du ministre de la Santé, Jean-Baptiste Bourgeon, 2 abattoirs notamment sont touchés.
Oui, le premier foyer d'infection concerne l'abattoir de Kerméné dans les Côtes d'Armor. Sur 209 employés testés, 69 sont positifs. L'agence régionale de santé assure que ces personnes sont isolées à leur domicile. L'ARS va désormais identifier les cas contacts de ces personnes contaminées pour les placer en quarantaine. Des tests supplémentaires sont prévus aujourd'hui sur d'autres employés de l'abattoir.
Il y a un autre foyer d'infection, Jean-Baptiste, dans un abattoir du Loiret.
Oui, dans l'abattoir de Fleury-les-Aubrais, cette fois 34 cas ont été dépistés. Compte tenu de l'importance de la circulation du virus, l'ARS a décidé de tester l'ensemble des 400 salariés du site entre aujourd'hui et demain. Des contaminations qui peuvent s'expliquer par la promiscuité entre les salariés et des gestes barrières difficiles à respecter autour des plans de travail et lors des opérations de découpe de la viande. Enfin, tous ces abattoirs sont également restés ouverts durant la période de confinement afin d'approvisionner les grandes surfaces.
Jean-Baptiste Bourgeon, merci beaucoup. À Fleury-les-Aubrais, vous le disiez, 34 personnes ont été testées positives. À partir de ce lundi et pour toute la semaine, les écoles, les accueils de loisirs et les crèches resteront fermées. Réouverture dans ce contexte des collèges dans les zones classées vertes aujourd'hui. 150 000 jeunes de 6e et de 5e reprennent les cours. Reprise progressive, mesures sanitaires strictes. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes au collège Bétance à Muret, près de Toulouse, où le tiers des élèves de 6e font donc leur retour.
Tout est en place ici pour accueillir les élèves. Nous sommes avec le principal Philippe Antunes. Bonjour.
Bonjour.
Tout est en place, dont les masques, qui est une priorité absolue.
Obligatoire pour les personnels et pour les élèves. Quand les élèves sont là, les masques sont obligatoires pour tous les personnels.
Comment ça se passe dans les salles de classe ?
Dans les salles de classe, 12 élèves par groupe, dans des salles avec des points d'eau et avec une distanciation physique de toutes les tables.
Il y aura des personnels pour surveiller tout ça ?
Tous les personnels sont en ordre de marche pour surveiller.
Et les élèves resteront dans la même salle toute la journée ?
Toute la journée, ils restent. Les professeurs se déplacent avec leur matériel. Toutes les salles sont équipées de vidéoprojecteurs, de matériel informatique pour pouvoir travailler comme d'ordinaire et pouvoir accompagner les élèves qui viendront, à peu près 33% de l'effectif de 6e, c'est aujourd'hui.
77 élèves, très exactement, en classe de 6e, entrent ce matin ici dans cet établissement. Pour les 5e, ce sera demain matin.
Jean-Wilfried Forquès avec Maxime Souniac. La réouverture des collèges des 4 régions en zone rouge et de Mayotte doit être tranchée à la fin du mois. Le gouvernement promet d'augmenter les rémunérations à l'hôpital. Une réunion est prévue lundi prochain au ministère de la Santé avec les partenaires sociaux. Les agences Pôle emploi reprennent progressivement leur activité aussi à partir d'aujourd'hui. Vous pourrez aller sur place sur rendez-vous uniquement dans un premier temps. Le protocole sanitaire doit être scrupuleusement respecté là aussi. Maxime Brandstatter, Saber Desfarges, Camille Fournier.
Cette agence Pôle emploi du 19e arrondissement de Paris rouvre ses portes aujourd'hui. Claire Via, Vase de la Lande, est responsable équipe de l'agence. Elle a dû adapter les lieux.
On a volontairement mis un marquage au sol pour la distanciation sociale. On aura un agent qui sera positionné de manière à vérifier que tout demandeur d'emploi mettra du gel sur ses mains.
Une reprise, mais pas encore un retour à la normale. Beaucoup d'agents restent en télétravail et sur place, l'équipe est restreinte.
On aura une personne du coup sur le poste sanitaire et une personne au vidéoportier et une autre personne qui sera là pour les urgences d'accueil. Donc on sera à peu près sur 9 personnes maximum.
Attention donc, si vous pensiez revenir à l'improviste, ce ne sera pas possible, explique le directeur de l'agence, Philippe Raffin.
Toute la journée sera en rendez-vous, sur rendez-vous. Et donc, de la même manière qu'avant, on prenait des rendez-vous pour l'après-midi, on les prendra également pour le matin, avec la spécificité également que pour l'utilisation du matériel ordinateur à disposition pour les usagers, il faudra également prendre un rendez-vous, ce qui n'était pas le cas avant. Ils pouvaient se présenter directement en zone d'accueil et utiliser les ordinateurs.
Les prises de rendez-vous se font uniquement sur Internet ou par téléphone.
Dans l'actualité également, un jeune homme de 17 ans tué par balle à Besançon dans le quartier sensible de Planoise hier soir. Le tireur a pris la fuite, mais l'homme qui se trouvait avec lui au moment des faits a été arrêté. Et puis des tensions à Argenteuil dans le Val d'Oise, conséquence de la mort d'un jeune de 18 ans. Il s'est tué à moto ce week-end à proximité d'une voiture de police, ce qui interroge sur les circonstances de l'accident. Une enquête est ouverte. Et les courses, c'est à Chantilly, mais Mathieu n'est pas là. Je ne sais pas.
Vous n'avez pas. Bah Mathieu, les courses alors. Mathieu,
il arrive calmement.
Allez.
Le 5, Karlstad.
Oui, ça,
et le 10, le 5, Mortry.
Le 5,
voilà.
Le 10.
C'est ça, c'est le pronostic de la Dream Team des courses RMC.
Je me suis pas très compliqué. Tu n'étais pas là, et puis là, tout d'un coup, bam.
Bah, voilà. J'étais en train de discuter tranquillement.
Bah, voilà, tranquillement. Bon, Axel Kahn nous a rejoint. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Bien, merci. Nous allons parler du cancer, évidemment, et du cri d'alarme que vous lancez ce matin sur RMC et RMC Découverte. Il est 7h39. En attendant, je vais prendre vite Anthony, qui est dans les Bouches-du-Rhône.
Oui,
t'aimes les vallons. Ça va, mon cher Anthony?
Oui, ça va très bien, merci.
Vous êtes aide-soignant, hein, Anthony?
Oui, tout à fait. Je suis en service, là, je suis en train de travailler.
Vous êtes en service. Alors, le déconfinement, est-ce que ça va trop vite ou pas trop vite en France? Quel est votre sentiment, Anthony?
Alors, moi, personnellement, je trouve que ça va très très vite et qu'il y a énormément de gens qui ne respectent pas du tout le confinement, surtout dans les centres commerciaux.
Il n'y a plus de confinement, avec qui ne respectent les règles du déconfinement, vous voulez dire.
Oui, ils ne respectent rien du tout. Par exemple, hier, je prends le cas dans un grand centre commercial proche de chez moi, les gens à l'intérieur n'ont pas de masque, ils rentrent dans les magasins, ils ont des masques dans les sacs, ils rentrent dans les magasins avec un masque, mais par contre, dans les couloirs, dans toute la périphérie, il n'y a pas de masque, on trouve plein de masques par terre, il n'y a aucun respect. Et le plus grave, c'est que c'est surtout chez les jeunes.
Oui, surtout chez les jeunes.
Chez les jeunes, c'est une catastrophe, vraiment catastrophique.
Et puis vous avez le témoignage de Michael tout à l'heure, qui reste chez lui, cloîtré, il a 34 ans, et il a peur de sortir, la phobie de sortir.
Mais je comprends.
Bon.
Honnêtement, je le comprends. Quand vous allez dans des grands supermarchés, que vous voyez des gens sans masque, que vous voyez même des personnes âgées sans masque, il y a quand même beaucoup d'inconscience avec tout ce qui s'est passé, avec le nombre de morts qu'il y a eu chez la personne âgée, avec le nombre de cas qu'il y a eu chez des patients jeunes aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de patients jeunes qui ont été atteints. Donc, c'est vraiment...
Donc, on n'accélère pas le déconfinement pour vous, Anthony?
Non. Non, pas du tout.
Eh ben, merci Anthony, vous nourrissez le débat. Merci Anthony, et merci d'être avec nous. Est-ce qu'il faut accélérer le déconfinement, professeur Axel Kahn?
Non, mais je crois qu'il faut se déconfiner prudemment, mais également sans être obsédé. Vous savez, une épidémie, toujours, on en a connu d'autres, c'est la première du 21e siècle de cette importance. Mais il y en a eu quatre bien plus importantes virales au 20e siècle. C'est la moins grave des dernières grandes pandémies virales, celle-là. Eh bien, il y a un pic et puis ça disparaît. Et donc, il ne faut pas vivre totalement obsédé par cet épisode qu'on a vécu quand même.
Donc il faut...
la vie continue, et notamment, on en reparlera, la lutte contre le cancer.
Oui, bah ça, je vais en parler, évidemment que je vais en parler, professeur. La vie continue, et il faut absolument rouvrir peu à peu tous les espaces de vie. J'appelle ça des espaces de vie.
Écoutez, je vais vous dire, on ne pouvait pas faire autrement, mais je vous ai rappelé qu'au XXe siècle, il y a eu quatre pandémies virales beaucoup plus mortelles que celle-là. Il y a eu la grippe espagnole, il y a eu le sida, il y a eu la grippe asiatique et la grippe de Hong Kong, toutes plus mortelles que celle-là. Et donc là, c'est la première grande pandémie du XXIe siècle. La raison pour laquelle elle est exceptionnelle, ça n'est pas qu'en tant que pandémie, elle est exceptionnelle, c'est que l'obsession de sa santé, que je comprends bien, et je ne le reproche pas du tout, de l'homme du 21e siècle, a fait que pour la première fois, dans toute l'histoire de l'humanité, l'humanité s'est figée. Et les conséquences économiques et sociales de cet arrêt total de l'activité du monde seront plus douloureuses, plus mortelles sans doute, que les conséquences du virus. Il faut se rendre compte. Et par conséquent, il faut certainement ne pas prendre à la légère la lutte contre ce virus, mais ce serait totalement déraisonnable de prendre à la légère également l'après-lutte contre le virus, que ce soit dans le domaine de l'économie ou dans le domaine des luttes contre les grandes maladies, et en particulier pour ce qui concerne le cancer.
Alerte! Alerte! Les dons s'effondrent, c'est ce que vous dites, vous présidez la Ligue nationale contre le cancer dans 2 minutes. Nous développons tout cela avec le professeur Axel Kahn, qui est notre invité ce matin. Il est 7h43.
RMC,
Bourdin Direct.
L'autre grand sujet qui vous agite, ce sont ces masques que l'on retrouve par terre, jetés dans la rue, dans la campagne, à la plage, à la montagne. Ne me dites pas que ça vous étonne, nous dit Laurent. Moi, je ne suis pas du tout étonné. On découvre, on redécouvre l'incivisme de nos compatriotes. Ce n'est que la continuité du comportement insupportable de certains Français, toujours avoir des excuses bien sérieuses à leurs yeux avec des arguments irréprochables. Didier, lui, nous dit que la prévention, ça ne marche pas. Il faut une amende d'au moins 68 euros. Philippe, pas d'accord non plus avec la manière douce, il faut taper au portefeuille entre 100 et 150 euros si récidive, même pour tous les détritus, les mégots, les mouchoirs, avec une grosse campagne à la télévision pour, avec les enfants, pour culpabiliser les parents, nous dit Philippe. Bruno va même encore plus loin, 350 euros parce que cette somme serait plus dissuasive, nous dit-il. Un autre Didier nous dit, on voit effectivement des masques par terre à Narbonne, mais ce qui me révulse le plus, ce sont les gens qui rentrent dans des magasins sans masque. C'est la preuve, selon Didier, de l'égoïsme de certains qui se moquent bien de protéger les autres.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct.
Professeur Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer, notre invité ce matin, les dons s'effondrent. Alerte, professeur.
Oui, on est extrêmement en difficulté. Extrêmement ennuyé, parce que la Ligue, c'est quelque chose quand même. Elle a 102 ans, mais c'est pas ça, c'est pas son âge qui fait qu'elle est tout à fait honorable et importante. C'est qu'elle a quasiment une mission de service public en France. Oui. Elle est le premier financeur non institutionnel de la recherche, 38 millions d'euros, plus que même l'Institut National du Cancer et que les autres fondations. Par ailleurs, et ça, les gens ne le savent pas, elle a un rôle social extraordinaire. Sur tous les territoires, elle offre des soins de support oncologique gratuits, vous savez, pour accompagner les personnes dans ce long tunnel qui est un parcours de soins de cancer. La psychologie, les soins capillaires, la socio-esthétique, l'activité physique adaptée, etc. Absolument partout. Elle donne des chèques, de l'argent liquide, aux personnes qui ont été paupérisées par le cancer. Les personnes pauvres sont évidemment très fragiles à la paupérisation par la maladie. Et lors de la crise du Covid-19, de la Covid-19, c'est encore pire en réalité. Et dans ces conditions-là, il y a un problème, on comprend bien, on s'y attendait, c'est que les gens n'ont plus la tête à ça. Et puis il y a la crise économique. Et donc, d'un seul coup, véritablement, ce qui permet à la Ligue, qui ne dépend que de la générosité publique, de faire son travail essentiel, devient extrêmement incertain. Nous sommes les financeurs de plusieurs centaines de jeunes chercheurs doctoraux qui sont l'avenir de la recherche en cancérologie. On ne sait pas si on pourra payer les salaires. Nous sommes ceux qui, par conséquent, offrons ces aides sociales sur tout le territoire. On ne sait pas comment on va faire. Nous sommes par conséquent ceux qui offrons gratuitement ces soins de support. On ne sait pas comment on va faire. Or, vous savez, je disais tout à l'heure en répondant à votre question.
Oui.
Évidemment, la crise de la Covid-19, c'est terrible. Mais voilà, il y a un pic et puis oui. Même s'il y a une petite récidive l'an prochain, j'espère que le vaccin il viendra avant, eh bien, on n'en parlera plus bientôt. Si, on le rappellera dans l'histoire. Mais bon, une épidémie, c'est comme ça, on en a connu d'autres, réellement.
Oui.
Le cancer, non. Le cancer, il y a 750 000 ou même 720 000 maintenant jeunes Français qui naissent tous les ans. Il y en a 400 000 qui sont détectés d'un cancer tous les ans. Plus de 1 sur 2. Aujourd'hui, il y a 150 000 personnes qui meurent du cancer. Et pas simplement des hommes plutôt âgés, comme moi, oui. Comme avec la Covid-19, mais des enfants, mais oui. Des femmes en nombre. Et par conséquent, c'est adversaire, le cancer. Il est redoutable. Il ne faut pas déposer les armes. Il ne faut pas déposer les armes. Je suis inquiet, tout simplement, parce que je me dis, si véritablement on baisse la garde, notre adversaire, il va avancer. Il va l'emporter. Je ne veux pas que le cancer, il fasse des progrès, parce que, de manière intercurrente, la Covid-19 a frappé. Voilà ce que je ne veux pas.
Donc il faut donner. Absolument, il faut continuer à donner. Les dons se sont effondrés de combien, Axel Kahn?
À l'heure actuelle, on considère qu'il y a au moins 10 millions de moins. 10 millions.
Ça représente quoi en pourcentage, 10 millions de dons en moins?
Alors, c'est sur 2 mois, par conséquent.
Sur 2 mois,
10
oui.
millions de moins à la Ligue, c'est de l'ordre de... La Ligue a un budget totale oui. importante, qui est de 108 millions d'euros. Mais 10 millions d'euros,
sur
c'est la
totale.
Non, on n'a pas perdu 108 millions d'euros.
Non,
on
non,
a perdu 10 millions sur les deux mois.
Voilà. Sur deux mois.
Absolument.
Mais sur un budget de 108 millions.
Voilà.
Donc, sur des dons de 108 millions par an.
C'est une projection, hein, on va
oui,
pas
oui,
dire.
Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est considérable.
C'est considérable. C'est considérable pour vous donner une idée. C'est la totalité des salaires que nous payons pour ces chercheurs doctorants et donc oui. l'avenir de la recherche en cancérologie. C'est la totalité des millions, c'est également la somme pour les soins de support. C'est deux fois plus à peu près que les enveloppes que nous versons pour les aides sociales d'urgence aux personnes oui, que le cancer a frappé et a paupérisé.
Professeur, j'entends déjà des auditeurs et des auditrices, mais il y a l'État pour ça qui va compenser. Mais non.
Eh ben, écoutez, de toute façon, il y a deux éléments. Il y a un élément philosophique et un élément factuel.
Oui.
L'élément philosophique, c'est que même quand il y a l'État, on ne peut pas dissuader la générosité. Il y a un mouvement très important qui s'est manifesté par l'AFM, par la Ligue est plus ancienne que l'AFM, qui est que le citoyen, il est évidemment partie prenante dans l'engagement pour sa santé. Est-ce que vous voulez déléguer toute votre santé à quelqu'un d'autre ?
Non.
Vous ne le voulez pas ?
Non.
Personne ne le veut. Eh bien, moi, je dis naturellement que l'État, il a un rôle extrêmement important. Et il remplit plus ou moins bien, on peut le contester, oui. on peut l'approuver. Mais de toute façon, par rapport à cette maladie qu'est le cancer, il est clair que ça n'est jamais suffisant.
Oui.
Ça n'est jamais suffisant. À l'heure actuelle, la tendance quand même, c'est de baisser les prélèvements obligatoires, c'est de etc.
Sûr.
Et donc, évidemment, on ne peut pas demander à l'État d'augmenter son intervention au rythme ou l'exigence de la lutte contre cet adversaire extrêmement malin, extrêmement redoutable que son lait cancer l'exigerait.
Professeur, merci. Nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet. Je lance un appel au nom de la Ligue nationale.
Je peux donner peut-être le site.
Allez-y.
Allez, quand même.
Allez-y, hein. Allez-y.
Ligue-cancer.net. Ligue-cancer.net. Vous avez le site, vous allez sur don. Et s'il vous plaît, alors un autre point, après je vous laisse tranquille. Allez-y. Un autre point. Il y a des gens qui sont paupérisés, qui vont avoir des difficultés.
Oui.
Mais il y a 500 milliards d'euros qui sont thésaurisés par environ 500 000 personnes dans ce pays. Donc, je m'adresse également aux gens qui ont du bien. Vous qui avez du bien, vous pouvez également avoir le cancer. Avoir du bien n'évite pas d'avoir le cancer. Vous qui avez des biens, vous avez besoin de la Ligue.
Eh bien, merci pour cet appel, Axel Kahn. Merci beaucoup. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Nicolas, c'est le moment.
RMC, expliquez-nous.
Expliquez-nous. Alors Nicolas, on parlait de l'Italie, évidemment. L'Italie qui a accéléré son déconfinement depuis ce matin.
Oui, depuis ce matin, la liberté de circulation est en grande partie rétablie et la plupart des commerces peuvent rouvrir leurs portes. Donc ce pays qui a été longtemps le plus touché d'Europe veut maintenant tourner la page. Le gouvernement italien a planché toute la nuit de samedi à dimanche pour peser le pour et le contre et finalement les décisions surprises ont été annoncées hier matin. Avec 15 jours d'avance donc sur le calendrier prévu, les Italiens retrouvent le droit de circuler librement et sans justificatif à l'intérieur de leur région, alors que jusqu'à hier c'était avec justificatif et seulement à l'intérieur de sa commune. Donc on voit que ça change tout. Les commerces sont tous autorisés à rouvrir ce matin, mais aussi les musées, les sites touristiques, les églises, y compris Saint-Pierre de Rome, et puis surtout les restaurants et les bars qui rouvrent librement
dès ce matin.
Les restaurants
et les bars ouverts
en Italie. Et même, un truc de dingue, les plages, avec le droit d'amener sa serviette à la plage et de s'asseoir dessus. Un truc qui n'existe pas encore chez nous. Donc l'Italie a été le premier pays qui s'était confiné, hein, une semaine avant la France. C'est aussi un pays qui s'est d'abord très prudemment déconfiné jusqu'à donc cette soudaine accélération hier matin.
Et le nouveau calendrier prévoit d'autres réouvertures ces prochaines semaines.
Les piscines et les gymnases, ce sera pour lundi prochain. Les théâtres et les cinémas pour le lundi d'après. Puis trois jours après, ce sera la liberté totale de circuler avec aussi la réouverture des frontières. Donc dès le 3 juin, les Italiens pourront circuler dans tout le pays et les touristes étrangers, c'est-à-dire nous, pourront venir sans subir, sans avoir à subir de quarantaine comme ça avait été évoqué. Donc sauf mauvaise surprise, dans un peu plus de 15 jours, l'Italie sera un pays totalement déconfiné à deux exceptions près, les écoles qui restent fermées jusqu'en septembre et puis le football. On n'a pas encore la date de la reprise du calcio.
Est-ce que ce n'est pas un peu risqué tout ça ?
Alors si, le Premier ministre Giuseppe Conte le dit, il le reconnaît, c'est risqué. Il a même dit qu'il imagine imagine que les courbes de contamination et de décès vont peut-être remonter. Mais selon lui, il faut accepter ce risque parce que sinon, l'autre choix, eh bien, c'est de rester enfermé jusqu'à l'arrivée d'un vaccin et jusqu'à sa distribution à tout le monde. Autrement dit, une perspective beaucoup trop lointaine. En clair, c'est risqué, dit le Premier ministre italien, mais on n'a pas le choix.
Bien, le gouvernement italien qui voudrait instaurer un système de traçage des malades. En France, on a... peut-être stop Covid, nous verrons bien. Et en Italie, ça
alors
s'appelle
en Italie,
comment?
Ça s'appelle Immuni et c'est
Immuni.
Exactement comme stop Covid. C'est donc une application sur les téléphones pour enregistrer par Bluetooth les personnes que vous avez rencontrées sur la base du volontariat, sans géolocalisation. C'est la même idée et elle provoque les mêmes réticences et le même débat qu'en France et puis aussi le même retard à l'allumage. Mais localement, en Italie, ils ont eu des idées. Dans les musées de Florence et dans la célèbre cathédrale, le Duomo, on va distribuer aux visiteurs des colliers qui vibreront dès qu'ils seront à moins de 2 mètres d'un autre visiteur. Autrement dit, voilà, ça va bzzz autour de votre cou si vous êtes trop proche de ah votre bon. Voisin. Et puis alors, à Rome, à l'aéroport de Fiumicino, une trentaine de caméras thermiques ont été installées, puis des employés vont se déplacer au milieu de la foule avec des casques qui enregistrent la température des gens jusqu'à 7 mètres de distance. Et si vous vous faites repérer comme ayant de la fièvre, eh bien vous êtes aussitôt évacué par ambulance. Dans un hôpital.
Dans un hôpital. Les Italiens qui ont aussi ouvert les portes des prisons.
Et assez largement, c'est le correspondant de Libération à Rome qui le raconte ce matin, pour éviter la contamination dans les prisons surpeuplées, plusieurs milliers de prisonniers ont été relâchés et assignés à résidence, comme chez nous. Sauf que ça s'est souvent fait sur des critères d'âge. Et seulement voilà, les très vieux prisonniers en Italie, ce sont souvent des très grands chefs de la mafia. 500 parrains ont été libérés, dont le boss de la mafia de Palerme, qui avait 70 ans, ou encore un chef mafieux de 85 ans qui avait été condamné pour avoir assassiné un enfant, le très jeune fils d'un repenti, et il avait dissous le corps dans de l'acide. Il a été libéré, ça a fait scandale. Et déjà, ces derniers jours, quelques grands mafieux ont été reconfinés, enfin réincarcérés.
Merci. Merci Nicolas. Il est 7h57.
À suivre, un enfant de 9 ans décédé à Marseille après des symptômes proches de la maladie de Kawasaki. Quel lien avec le Covid? Faut-il craindre d'autres cas, nombreux ou pas? Nous allons tout savoir avec le professeur Damien Bonnet, chef du service de cardiologie pédiatrique à l'hôpital Necker à Paris, juste après le journal de 8h sur RMC.
RMC,